Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.
Au sommaire de cette émission, deux écrivains, Leonora Miano, une jeune écrivain camerounaise qui vit en France maintenant depuis quelques années, et Daniel Rondeau, un écrivain plus mature, qui a parcouru sa carrière à travers diverses organisations journalistiques, la diplomatie, beaucoup de choses, et qui est resté tout au long de son existence un écrivain. Et puis nous terminerons cette émission par un coup d'œil sur la presse, avec notamment le dernier numéro de la revue Lire, et notamment son dossier dont le titre est « La chanson est-elle de la littérature ?» Alors nous allons commencer par Daniel Rondeau, qui est devenu un personnage tout à fait honorable, qui est honoré de prix, dont le dernier, le Grand Prix de la littérature de l'Académie française. Alors Daniel Rondeau s'est fait connaître surtout en devenant journaliste et notamment rédacteur en chef des pages culture du journal Libération. Il est aussi un grand voyageur, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement la Méditerranée et les enjeux géostratégiques de cette mer intérieure, pourrait-on dire. Il a été éditeur, puis ambassadeur à Malte, grâce à Bernard Kouchner. Et puis, il a terminé sa carrière en étant représentant permanent de la France auprès de l'UNESCO, fonction dont il a démissionné en 2013, atteint par la limite d'âge. Il écrit ces jours-ci, donc le livre qui a obtenu ce prix, il écrit « Mécanique du chaos », qui est une tentative un peu polyphonique de décrire la réalité d'aujourd'hui à travers un roman. Place à Daniel Rondeau.
Mon projet, c'est faire vivre des héros d'aujourd'hui, des héros simples, des héros de notre France souterraine aussi, de cette France que nous avons parfois négligée, abandonnée, où l'œuvre de la République, son œuvre d'éducation, mais aussi son œuvre de fermeté, ont été défaillantes, et où des gens continuent d'errer, pour reprendre ce terme, dans des territoires qu'ils occupent et en imposant des lois qui ne sont plus les lois de la République ou en se laissant imposer la loi de la jungle. Je pense que les mécaniques du chaos travaillent en profondeur notre pays, travaillent en profondeur l'Europe et le monde entier. Pour parler du terrorisme islamique, on voit bien comment le terrorisme islamique, c'est quelque chose qui nous paraissait impensable il y a 40 ans. Bon. Il est là, c'est devenu quasiment notre quotidien. Les attentats sont déjoués pratiquement chaque semaine en France. Donc ces forces sont à l'œuvre, ces forces de destruction sont à l'œuvre, et elles sont d'autant plus à l'œuvre qu'elles rentrent justement dans ce pays un peu liquide, un peu flottant, où les gens ne savent plus ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent, ce en quoi ils croient. Donc là, on a des possédés, pour reprendre un terme de Dostoïevski, des possédés qui, eux, croient en quelque chose, c'est la mort, et qui sont prêts à tout. Notre nihilisme général, je ne veux pas dire que vous ne croyez en rien, ni que je crois en rien. Je veux dire qu'il y a un terreau nihiliste qui vient de l'histoire du XXe siècle. L'Europe et la France ont été traversées par ces deux grands totalitarismes, le communisme et le nazisme. Et ils ont détruit le paysage, une partie du paysage spirituel européen. Ils ont été vaincus, mais ils ont laissé en héritage une sorte de bombe à retardement, qu'est notre nihilisme, le fait que de penser que toutes les choses se valent, qu'après tout, ça ne vaut pas le coup de se battre pour une idée. Bon, et c'est assez fréquent, je ne veux pas dire que nous sommes tous comme ça, mais je veux dire que c'est quand même un fond de l'esprit européen aujourd'hui. Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il faut d'abord croire en soi. Pour croire dans les autres, il faut croire en soi. Il ne faut pas toujours se dénigrer. Il ne faut pas penser que nous sommes des minables. Nous sommes un grand pays. Nous sommes un pays avec une histoire lourde, un pays qui rayonne encore dans le monde entier, contrairement à ce qu'on croit. Donc si nous croyons en nous-mêmes, nous croirons un peu plus en les autres, il faut espérer. Il faut que tous les gens qui vivent, on parlait de cette vie dans les, des gens qui sont victimes de la loi de la jungle dans les banlieues, je pense à ce personnage de mon roman qui est un vieil Algérien, qui s'appelle Bouadiba. Il a passé toute sa vie là, dans une cité. C'est un homme extraordinaire, honnête, avec une moralité forte. Et il ne peut plus vivre dans sa cité, il ne peut plus vivre dans son immeuble, il ne peut plus vivre dans son escalier. Donc tous ces gens ont perdu l'espérance. L'espérance que demain sera un autre jour. Et bon, je crois qu'il faut croire en soi, croire en les autres, et espérer que les choses sont possibles, qu'on peut changer les choses. Les personnages se sont imposés au fil du temps. Le premier fil rouge, c'était sans doute Monsieur Bouadiba, vieil Algérien, retraité des grands moulins de Torbeil, comme je dis. Et il était dans la première version d'un roman que j'ai commencé il y a très longtemps, sur la même idée, mais version que j'ai reprise quand j'ai quitté mes fonctions d'ambassadeur à l'UNESCO. Et quand j'ai repris cette version ne me plaisait pas. Je voulais dire la même chose, mais je trouvais que le ton n'était pas là, qu'il n'y avait pas assez d'énergie, qu'il n'y avait pas assez de... c'était pas assez acéré. Mais j'ai exfiltré un personnage, qui est Bouadiba, parce que lui me plaisait énormément. Donc ça a été une sorte de... ça a été le premier de cordée dans mon histoire, et il était là. Ensuite, il y a cette Somalienne, une jeune Somalienne, Habiba, rescapée d'un naufrage, c'est une boat people, rescapée d'un naufrage sur les rivages de Malte, et elle va être un de mes fils rouges aussi. Et peut-être que le troisième, un personnage qui... il y en a encore deux, il y a ce policier, parce que lui, là, je montre comment il flotte pas de façon politique, il flotte dans sa vie. Sa femme vient de le quitter, ils sont mariés, ils ont des enfants. Elle vient de le quitter, il n'a pas prévu ça, et il est totalement perdu. Il est obsédé par son divorce, il ne sait pas ce qu'il doit faire dans la vie, il n'a pas de plan B, et il s'est marié pour toujours, et brusquement, ça foire. Donc, c'est une sorte de naufragé, comme les autres. Et puis, il y a un personnage quand même qui est le narrateur, qui est l'archéologue. Cet archéologue, il m'apporte à la fois la sagesse et le recul, c'est-à-dire grâce à lui, je peux faire intervenir l'histoire, la réflexion ou la méditation sur l'histoire, le fait que dans l'histoire, il y a des cycles, qu'il y a des révolutions, que tout passe, et qu'en même temps, il ne faut jamais désespérer.
Métamorphose du chaos, donc, est publié aux éditions Grasset et vient d'obtenir, comme je le disais, le Grand Prix de l'Académie française. Alors venons-en à Léonora Miano. Léonora Miano, c'est une écrivaine camerounaise. Elle est née à Douala et elle est venue s'installer en France en 1991 pour étudier la littérature américaine. La première œuvre de Léonora Miano, « L'intérieur de la nuit », a reçu non seulement un très bon accueil de la critique, mais le roman a obtenu à lui seul 6 prix. Alors je vous éviterai la litanie des qualificatifs de ces prix, mais sachez que le magazine Lire l'a qualifié du meilleur premier roman français de l'année 2005. Et depuis, elle n'a cessé d'écrire. Son deuxième roman, Contour du jour qui vient, a reçu en novembre 2006 le prix Goncourt des lycéens, qui est un fameux prix. Et donc, elle a vendu beaucoup de livres à travers la France, puisque ce prix est accompagné d'une tournée qui emmène l'écrivain dans les différentes FNAC qui jalonnent le territoire français. Et au printemps 2008, Léonora Miano a publié 5 romans dans la collection Étonnant Classique dans les éditions Flammarion. Et ils sont d'ailleurs regroupés sous le titre Afropéane et autres nouvelles. En fait, Léonora Amiano fait le lien entre la littérature française et la littérature africaine. On pourrait presque dire qu'elle a contribué à créer un genre afro-européen. Et d'un critique, Daniel Laranger, dit que son écriture jazzy est fondée sur une culture populaire et musicale qui donc intègre bien les rythmes et les rhapsodies propres au jazz. Enfin, Léonora Amiano donc, a obtenu le prix Femina pour La saison de l'ombre, et qui raconte l'histoire, une histoire terrible de traite de Noirs. Elle s'intéresse évidemment à son histoire, à ses racines. Et donc, c'est un peu dans cette mouvance-là qu'elle publie un essai aujourd'hui qui s'appelle « Marianne et le petit garçon noir », qui alors s'intéresse à un sujet dont on a peu de témoignages. C'est « Qu'en est-il de la masculinité noire alors quand on est en permanence l'objet du délit de faciès » C'est-à-dire que comment se constitue en homme un petit noir qui en permanence est dénigré et suspecté, quelle stratégie oblique il peut mettre en place pour malgré tout se construire dans un univers dans lequel il est un peu en permanence soupçonné. Et c'est un livre qui est composé d'un texte de début qui est écrit par Léonora Amiano qui explique ça, cette observation et en même temps les réflexions que lui amène la série de témoignages ou d'observations qui suivent, puisque le livre est composé donc d'une série de textes qui suivent l'introduction de Léonora Amiano et qui donc mettent en évidence le sujet qui la passionne. Mais le mieux est encore de la laisser expliquer elle-même l'objet de son livre.
L'idée de l'ouvrage est venue quelques temps après ce que le public connaît comme l'affaire Théo de Ouaka, ce jeune homme de 22 ans qui a été brutalement interpellé par la police à Aulnay-sous-Bois et qui a porté plainte pour viol. On a découvert que un bâton télescopique donc de policier avait été introduit dans son corps. J'ai trouvé ça extrêmement violent, extrêmement brutal comme manière d'approcher un humain, quel qu'il soit et quoi qu'il ait fait, surtout s'il n'est pas armé. Et puis, il se trouve que quelques temps auparavant, on avait eu le décès d'Adama Traoré, aussi pendant son interpellation, aussi aux mains des forces de l'ordre. Et à ce moment-là, j'avais écrit une tribune pour Libération, parce que j'avais été très choquée par le traitement réservé à sa famille, déjà par le fait que, voilà, une personne qui ne soit pas armée décède comme ça aux mains des forces de l'ordre. Mais j'avais vraiment été déchirée par le traitement réservé à sa famille, que j'avais trouvé indigne et inhumain, parce qu'il avait perdu la vie et qu'on n'avait eu vraiment aucun égard pour ses proches. Et lorsque l'affaire Théo est survenue, je me suis dit que je n'allais pas refaire une chronique un peu en colère, un peu peinée aussi, comme ça, une tribune endeuillée à nouveau, et que j'avais envie de quelque chose qui nous permette d'élever un peu le débat et pas rester uniquement dans l'émotion. Donc j'ai eu envie, en fait, d'approcher les garçons noirs qui vivent en France, qui sont souvent français, puisque ce sont eux qui font plus que les femmes l'objet de ces rencontres brutales avec les forces de l'ordre. Moi, ça fait plus de 20 ans que je vis en France et j'ai été dans des situations de vie extrêmement compliquées. Je n'ai jamais, jamais, jamais été contrôlée par la police, jamais. J'ai été sans domicile fixe, j'ai été sans papier, je n'ai jamais été contrôlée par la police parce que je suis une femme. Même en ayant eu l'air un peu louche parfois, on m'a quand même laissé tranquille. Mais les garçons, pour eux, ça se passe très différemment. Donc j'ai voulu les approcher, pas tellement pour qu'ils nous parlent de leur rapport avec la police, parce que autrement l'ouvrage aurait été une espèce de catalogue de plaintes. Et je ne voulais pas ça. Je voulais les interroger de manière un peu plus profonde et plus subtile aussi sur leur vécu. sur la manière dont on construit sa masculinité quand on est en situation de minorité. Comment on trouve des bases saines pour la construire, puisque la masculinité pour tous les hommes, pour toutes les sociétés du monde, pour tous les groupes humains, à quelques fondamentaux. Il y a des critères qui définissent le masculin et qui sont quasiment des universaux. Et dans ces critères, il y a des critères de souveraineté, il y a des critères de puissance, de possession du territoire, par exemple, ce genre de choses. Alors quand on est privé de ça, comment est-ce qu'on se... Voilà, on s'invente homme, comment on se crée homme en dépit de ses absences, avec ses failles. Quelles sont les ressources qu'on déploie? Est-ce qu'on trouve ces ressources? Est-ce qu'on ne les trouve pas? Voilà, ce sont ces choses-là que j'avais envie de savoir. Je ne dis pas que tous les textes répondent absolument à cette question, parce que ce qu'on découvre aussi, c'est que... la masculinité est quelque chose d'encore très silencieux, c'est pas quelque chose qui se dit. Les hommes n'ont pas l'habitude de parler d'eux, de parler de leur intimité, de la révéler, même entre hommes, même dans des groupes d'hommes, ça se fait encore assez peu. Je pense que ça va venir, mais ce n'est pas encore une tendance lourde. Mais j'ai trouvé des personnes qui ont joué le jeu, qui ont accepté de parler de questions différentes. Les relations amoureuses, les rapports avec la police, oui, les questions d'image, le fait d'habiter son corps, les questions plus politiques, justement, liées à la possession du territoire ou pas. Et donc, ça nous permet d'avoir un ouvrage qui nous propose des perspectives très, très différentes sur ces questions et qui nous permettent de commencer... à faire connaissance avec cette catégorie sociale dont le vécu ne se limite pas à des confrontations brutales avec la police. Voilà. J'avais envie qu'on commence à les connaître dans leur complexité, dans leur très très grande diversité. Donc les voix qui s'expriment sont très singulière, assez marquée, et chacune nous ouvre un point de vue. Alors, l'ouvrage n'est pas exhaustif, mais je pense que c'est un excellent point de départ. En tout cas, moi, je suis ravie de pouvoir le proposer.
Voilà le texte introduit par Leonora Miano, donc série de témoignages et de point de vue, c'est en tout cas un livre extrêmement original, tout à fait inédit. On y lit des choses auxquelles on n'aurait vraiment pas songé. Et donc, je ne saurais trop vous inciter à aller y voir de plus près. Donc, ça s'appelle Marianne. Marianne, c'est la marraine de la République, bien sûr. Et Le Garçon Noir, c'est publié chez Pauvert Fayard. Et c'est sorti assez récemment. Et puis, nous allons jeter un coup d'œil à la presse spécialisée et notamment à la revue Lire. Alors c'était le 13 octobre 2016, vous devez vous souvenir, puisque à la quasi-surprise générale, le prix Nobel de littérature était attribué à Bob Dylan pour avoir, je cite, « créé dans le cadre de la grande tradition de musique américaine de nouveaux modes d'expression poétique ». Alors la polémique était donc lancée, pourquoi Bob Dylan et pas Philip Roth, le grand écrivain américain du moment? Et puis allons par-dessus le marché, un chanteur, par ailleurs auteur et compositeur, peut-être peut-il être auréolé d'une telle distinction? En fait, la vraie question qui se posait, c'est la chanson est-elle de la littérature? Alors on est un an après, les passions se sont un petit peu calmées et on peut regarder les faits en détail. Alors il convenait de revenir sur cette interrogation et c'est ce que fait la revue Lire. D'autant que depuis, de Goncourt, dit que l'on pourrait qualifier d'alternatif, ont récompensé dans la foulée des hommes de musique, puisque le Goncourt des lycéens a été donné au slameur Gaël Faye avec Petit Pays, et celui de la Nouvelle pour le chanteur Raphaël avec Retourner à la mer. Donc entre considérations historiques et terminologiques, anecdotes, rencontres, interviews, lire nous fait part de quelques points de repère sur les relations entre les mots et les notes. À vous maintenant de trouver dans ce dossier ce qui vous convient et en tout cas d'essayer de vous frayer un chemin. Alors l'histoire des rapports entre les mots et les notes est très très ancienne puisque on peut évidemment, alors l'ancêtre de la chanson, c'est, on peut penser à Villon, mais on peut penser aussi à l'Odyssée qui est un texte chanté. Et donc François Villon qui était aussi un mauvais garçon, alors qui a donné qui a amené à des considérations un petit peu négatives sur la chanson. Alors les points de vue évidemment divergent, mais il ne faudrait quand même pas oublier que des grands écrivains comme Yves Simon par exemple n'a cessé de chanter et d'écrire des romans tout à fait conséquents. Il en est d'autres, et surtout que de grands poètes, je pense à Louis Amade qui écrivait pour Gilbert Bécaud, je pense à d'autres qui ont beaucoup écrit pour des chanteurs et qui étaient d'authentiques écrivains. Alors tout le monde n'est pas aussi sévère, et notamment un parolier comme Étienne Rodagil lui parle de poésie industrielle. Le poète n'est pas docile, il ne rentre pas dans un studio, même si quelques-uns se rapprochent de ce grand lyrique. Il y a une sorte de paradoxe à vouloir dénier à la chanson la catégorie de littérature, parce qu'au fond, il en est de la chanson comme des romans. On y trouve à la fois le meilleur et le pire. Dans les romans, on peut y découvrir des textes extrêmement intéressants comme ceux de Boris Vian, mais on peut aussi y découvrir des textes moins intéressants comme ceux de Musso, comme tous ces écrivains qui écrivent de la littérature quasiment au kilomètre. Alors on pourrait citer évidemment pour les plus célèbres Jean Ferrat, Léo Ferré, Georges Brassens, Serge Gainsbourg, Bernard Lavilliers, Julien Clerc, qui ont porté les mots de Prévert, d'Aragon, de Sandrart, de Desnos, de Apollinaire ou de Baudelaire, de Dubélé ou encore de Ronsard et bien d'autres. Donc les rapports entre la littérature, entre les mots et les notes, font-ils de la littérature? Eh bien oui. Alors, même si Bob Dylan lui-même, lorsqu'il a envoyé son discours de récipiendaire du prix Nobel, a dit que ça n'était pas de la littérature. Nos chansons, dit-il, se distinguent de la littérature. Elles sont faites pour être chantées et pas pour être lues. Alors, est-ce que la littérature, ça doit nécessairement être lue? Tout ce qui se chantait dans l'Antiquité semblerait démontrer le contraire. Et il est un écrivain actuel, lui-même qui vient d'obtenir le prix Nobel de littérature. Il s'agit de Kazuo Ishiguro, d'origine japonaise mais vivant en Angleterre, et bien qui, lui, a écrit quelques paroles pour la chanteuse de jazz Stacey Kent. Donc, à croire qu'entre la littérature et la chanson, la frontière n'est pas tellement infranchissable. Je ne saurais trop donc vous inciter, pour ceux que ça intéresse, évidemment, après vous pourrez y découvrir, et vous avez des articles sur chacun des grands paroliers qui se sont succédés. Et puis même, il y a un choix de ce qui fait le meilleur de la chanson et de la littérature par les gens qui ont participé à ce dossier. Voilà, c'est le dernier numéro de Lire, c'est le numéro de novembre 2017, et donc il compose ce beau, très beau dossier, très nourri. La chanson est-elle de la littérature? Alors, je vous rappelle que nous avons parlé de livres, notamment La mécanique du chaos de Daniel Rondeau, qui a reçu le prix de l'Académie française, et puis le livre de Léonora Miano, Marianne et le garçon noir, et qui est publié, lui, chez Pauvert. Et pour terminer, puisque nous avons parlé chansons, eh bien, nous allons terminer avec une chanson, et ainsi s'achèvera ce numéro de Gulliver, La Javanaise.
J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise. En dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain, mais vous à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson.
Ainsi s'achève ce nouveau numéro de Gulliver et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.
Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.